Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Ce soir, l'Espagne vit-elle une nouvelle transition démocratique ? Madrid ou Madrid ? Il va falloir choisir son camp. Samedi prochain, la finale de la Ligue des Champions opposera l'Atlético au Real, le club des petites gens face à celui de la bourgeoisie. Confrontation entre deux Espagnes, comme le football de ce pays en offre si souvent sur la scène européenne aussi bien que nationale. Longtemps, les électeurs espagnols ont été confrontés au même type d'alternative. Deux équipes sur le terrain, parti socialiste ou parti populaire. Mais depuis quelque temps, tout se complique. Désormais, ils sont quatre. En décembre, les législatives ont consacré la percée des mouvements Podemos et Ciudadanos. Depuis, aucun gouvernement n'a pu être constitué. Les Espagnols devront donc revoter le 26 juin prochain. Cette remise en cause du système bipartisan par des mouvements citoyens n'est évidemment pas sans lien avec la crise économique qui a terrassé le pays à partir de 2008 et dont celui-ci commence à peine à se relever. Mais peut-être faut-il aussi aller chercher les divisions actuelles dans un passé un peu plus ancien. Il y a 40 ans, l'Espagne rompait avec la dictature de manière exemplaire, opérant une transition démocratique érigée depuis en modèle d'unité nationale. Pour certains observateurs, c'est justement ce mythe fondateur qui est aujourd'hui remis en cause. Alors l'Espagne vit-elle une nouvelle transition démocratique ? C'est notre sujet du jour. Et pour en discuter, quatre invités ce soir. Alicia Fernandez-Garcia, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes attachée temporaire d'enseignement et de recherche en civilisation espagnole à l'université de Marne-la-Vallée. Vous avez dirigé avec Mathieu Petithomme, Contesté en Espagne, crise démocratique et mouvements sociaux. C'est un ouvrage publié cette année aux éditions Démopolis. Pour discuter avec vous, Sophie Babi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'université de Bourgogne. On vous doit, en 2012, aux éditions Casa de Velázquez, Le mythe de la transition pacifique, violence et politique en Espagne. Benoît Pellistrandi, bonsoir.
Bonsoir.
Historien, professeur au lycée Condorcet à Paris, membre correspondant de la Real Academia de la Historia à Madrid. Qu'est-ce que c'est, juste d'un mot ?
C'est l'Académie d'Histoire qui serait une sorte de mélange de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres et de l'Académie des Sciences Morales et Politiques, puisque eux, ils y intègrent l'histoire contemporaine.
L'histoire de l'Espagne des guerres napoléoniennes à nos jours, c'est l'ouvrage que vous avez publié aux éditions Perrin en 2013. Et puis notre quatrième invité se trouve au téléphone. Il est à Madrid, c'est Juan Luis Cebrián. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président du journal El País et du groupe de presse Prisa. Vous avez dirigé le quotidien, ce quotidien espagnol, le principal quotidien espagnol, de 1976 à 1988. Un journal qui a été au cœur de cette transition démocratique espagnole dont nous allons parler ce soir. Juan Luis Cebrián, c'est à vous que je souhaitais poser la première question. Est-ce que la crise politique que vit l'Espagne aujourd'hui vous apparaît comme une crise totalement inédite ?
Oui, je crois, bon, il y a des aspects de cette crise qu'on a voir aussi avec la crise des institutions européennes et la crise financière internationale. Mais dans tout cas, on peut voir que les institutions politiques qui sont sorties de la constitution de la transition, ils sont des problèmes de fonctionnement, donc il faudrait changer, il faudrait réformer la constitution si on veut que les systèmes survivent.
Ça veut dire que pour vous, c'est une crise qui n'est pas seulement une crise politique, c'est aussi une crise institutionnelle ?
Absolument oui, parce que ce qu'on a vu, c'est que pendant les dernières décades, ou peut-être les deux dernières décades, on a vu que le système électoral a donné aux partis politiques beaucoup de pouvoir et ils se sont appropriés des institutions, mais les institutions ne marchent pas tellement bien à ce moment-là, y compris même la justice.
Alors je vais demander à nos trois autres invités s'ils partagent déjà votre diagnostic. Alicia Fernandez-Garcia, crise institutionnelle aujourd'hui en Espagne.
Je pense que l'année 2015 a été une année chargée d'échéances électorales et des résultats obtenus. Je pense qu'on devrait ou on pourrait tirer trois conclusions. Tout d'abord, la rupture ou la fin du bipartisme politique qui a caractérisé l'échiquier politique depuis la transition démocratique. On voit, et d'après les résultats, on voit qu'il y a eu un déclin des partis, des grands partis dominants, le PP, le Parti Populaire, la droite et le PSOE, et l'émergence ou la percée d'une nouvelle formation politique à droite et citoyens, mais aussi à gauche, Podemos, une gauche alternative. Il faut aussi tirer une autre conclusion, c'est celle de la pluralité. Les Espagnols ont voté pluriel. Et je pense qu'au sein de cette pluralité, il faut que la politique espagnole et ses représentants apprennent à accepter et à gérer cette pluralité. Une dernière conclusion que j'aimerais bien mettre en avant, c'est en effet l'importance des partis indépendantistes qui sont devenus des véritables pièces ou des pièces incontournables du paysage politique espagnol.
Est-ce que du coup on peut dire, Benoît Pellistrandi, que les institutions espagnoles ne sont plus adaptées aujourd'hui à la situation politique de crise, ou bien est-ce qu'au contraire, finalement, depuis 5 mois que l'Espagne n'est plus au gouvernement, elles démontrent leur solidité, puisque l'Espagne est toujours debout, finalement?
Eh bien, j'aurais tendance à vous répondre, effectivement, qu'elles démontrent leur solidité, car la crise politique que nous sommes en train de vivre, elle s'opère selon le schéma constitutionnel qui avait été envisagé, auquel on n'avait jamais eu recours et qui avait été prévu par les textes. La dissolution automatique du Parlement qui a été signée par le roi Philippe VI le 3 mai intervient effectivement après le délai de 2 mois, puisque le premier vote au Cortés a eu lieu le 2 mars pour tenter d'investir Pedro Sanchez. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si d'un côté il y a des institutions qui fonctionnent, une démocratie qui fonctionne bien avec des électeurs qui peuvent s'exprimer et une participation qui a été relativement élevé, il n'en reste pas moins effectivement que la pratique des institutions par les acteurs politiques, par les deux grands partis qui ont monopolisé le pouvoir depuis 1982, pose problème. Et que par ailleurs aussi un certain nombre de compromis politiques extrêmement lourds qui ont été passés entre 76 et 78 pour la Constitution sont aujourd'hui remis radicalement en cause par la question indépendantiste, essentiellement la Catalogne. Donc je dirais en réalité des institutions qui fonctionnent et en même temps un schéma politique qui est en train de changer complètement et qui du coup conduit à la disqualification de ces institutions qui fonctionnent. Ce qui veut dire aussi la gravité de cette crise.
Sophie Babi.
Oui, je partagerai plutôt aussi le constat de Benoît Pellistrandi en ce qui concerne la solidité des institutions. Reste que il me semble qu'il y a effectivement le cadre territorial qui est à reconsidérer, et quand les Espagnols appellent souvent à refonder la Constitution, il s'agit de repenser le cadre territorial de l'Espagne à cause de cette puissance des partis indépendantistes. Mais il ne faut pas oublier non plus que ces partis nationalistes, parce qu'ils ne sont pas tous indépendantistes, sont présents depuis le début du paysage politique espagnol. Ils ont toujours été présents au Parlement national, et très souvent les grands partis ont dû faire des pactes, ont dû négocier avec eux, ont dû, non pas gouverner avec eux, mais en tout cas les prendre en compte dans la situation politique. Ensuite, il me semble qu'effectivement le système politique a changé dans le sens où on a une les grands partis sont en crise et qu'il y a une émergence, une pluralité de partis dont on va probablement parler, et que peut-être à terme il y aurait à réfléchir sur la représentativité électorale, c'est-à-dire sur le système électoral, si effectivement l'Espagne se révèle ingouvernable et les partis incapables de négocier entre eux.
Mais justement, alors cette crise des grands partis, elle existe en Espagne, mais on peut dire qu'elle existe dans tout un tas d'autres pays, notamment en France. Est-ce que du coup, il faut envisager cette crise, Sophie Babi, également dans un contexte beaucoup plus large, un contexte européen de remise en cause de la démocratie représentative, ou bien est-ce que vous y voyez, vous, une crise typiquement espagnole ?
Moi, j'aurais tendance à inscrire l'Espagne dans le cadre de la crise de la représentation démocratique en Europe de façon globale. L'Espagne a évidemment un certain nombre de spécificités, notamment la puissance de ce mouvement né des indignés et qui s'est transformé en un parti politique. On voit bien aujourd'hui que Nuit Debout, par exemple, a du mal à susciter un tel enthousiasme et une telle ampleur. Mais on est dans le même registre de contestation d'une forme de représentativité politique traditionnel, voilà.
Juan Luis Cebrián, sur le caractère profondément ou superficiellement peut-être espagnol de cette crise, en tout cas une crise qui ne serait pas seulement contractée par l'Espagne.
Bon, bien sûr, il y a partout, pas seulement à l'Espagne, une crise de l'État-nation comme il a fonctionné pendant des siècles, et une crise de la démocratie représentative. Ça, on peut voir pas seulement en Espagne, mais dans beaucoup de... Mais y compris dans les États-Unis, dans les élections actuelles. Mais il y a des aspects très concrets qui appartiennent à l'Espagne. D'abord, à l'Espagne, il n'y a pas une tradition démocratique très forte. Nous sommes un pays démocratique seulement depuis 40 années. Puis la question territoriale n'a été pas solutionnée dans la Constitution de 1978. Parce qu'il avait la pression de l'armée à cette époque-là et parce qu'il faut tenir compte que la transition a été faite pas seulement et pas principalement par les démocrates, mais par les franquistes aperturistes, pour ainsi dire aussi. Donc il y a un problème institutionnel avec, l'état des autonomies tel comme il fonctionne. Nous sommes un état fédéral dans beaucoup d'aspects, dans quelques aspects même comme fédéral, si on regarde bien, et il y a des tensions institutionnelles, pas seulement avec la Catalogne. C'est pas une question seulement de la Catalogne. On a créé une Espagne de les autonomies qui marche bien dans beaucoup d'aspects et qui a, par exemple, a fait que les différences entre le nord et le sud de l'Espagne soient mineures maintenant que les différences à l'Italie, par exemple. Mais il y a une question de système politique. Le Sénat ne sert à rien. Il n'est pas la chambre territoriale qu'on avait imaginée. Et puis, il y a une question très, très claire avec le système électoral. Parce que le système de listes fermées et bloquées a donné beaucoup de pouvoir au parti, au bipartidisme, au parti central. Il y a une crise de représentativité qui a été bien entendue par les jeunes générations qui ne se regardent pas dans beaucoup d'aspects sur le système institutionnel. Donc, je crois qu'il y a des institutions fortes, mais pas tellement fortes si on ne les change pas. S'il n'y a pas une réforme constitutionnelle qui doit être approuvée et consensuée par tous, la gauche et la nouvelle gauche, la droite et l'ancienne droite, et on aura des problèmes véritables dans le futur.
Et quand on voit la difficulté à former des gouvernements de coalition, on peut imaginer que ça va être très difficile. Benoît Bélistrandi.
Il faut nommer l'un des facteurs majeurs de la crise espagnole. C'est l'effondrement du Parti Socialiste Ouvrier Espagnol, qui a gouverné de 1982 à 1996 et de 2004 à 2011. Or, le Parti Socialiste, qui a été vraiment un acteur essentiel de l'achèvement de la transition démocratique. La victoire de Felipe González à partir d'octobre 82 et ce long gouvernement permet de véritablement parachever cette transition qui, techniquement, juridiquement, c'est la constitution de 78, mais il fallait ensuite que les socialistes gouvernent. C'est aussi l'approfondissement de l'État-providence, c'est l'intégration européenne. Donc, le pilier de la construction de l'Espagne moderne et démocratique, c'est le Parti Socialiste Ouvrier Espagnol. Et entre 2004 et 2011, il s'effondre pour deux raisons principales. La première, c'est la question territoriale. José Luis Rodríguez Zapatero commet une erreur magistrale quand il dit au Parti Socialiste de Catalogne et à ses alliés qui sont à l'époque au gouvernement en Catalogne « Faites la réforme du statut de la Catalogne que vous voulez, on l'approuvera ». Et à partir de ce moment-là, effectivement, il déséquilibre la dialectique entre la Catalogne et l'Espagne et il a piégé le Parti Socialiste. Juste un chiffre, en 2008, le Parti Socialiste de Catalogne obtient 25 députés et c'est lui qui fait la victoire de Zapatero lors de ses élections. Aux dernières élections 2015, il en a eu 9. Et le Parti Socialiste est quatrième désormais en Catalogne. Et puis la deuxième, je dirais, boulet de l'héritage Zapatero, c'est la crise économique. Alors, je ne dis pas qu'il est responsable de la crise économique, mais il est responsable du tournant de 2010, qui serait un peu comparable en France au tournant de la rigueur en 1983. Et à partir de ce moment-là, eh bien, toute une gauche abandonne le PSOE. Si bien que le PSOE a perdu deux forces vives, ceux qui étaient favorables à un État relativement fort et décentralisé, mais où les choses tenaient, c'est ceux qui vont créer le petit parti Unión Progreso y Democracia avec Rosa Díez, qui est une ancienne socialiste du Pays Basque. Et puis ensuite, il va y avoir l'aile gauche qui fera Podemos. Et aujourd'hui, quand on regarde les sondages, Podemos Izquierda Unida 23%, le Parti Socialiste 20%, on retrouve les 43% qui étaient un petit peu la base électorale du Parti Socialiste.
Alessia Fernandez Garcia, est-ce qu'on pourrait dire que le PSOE, donc le Parti Socialiste, ayant parachevé cette transition démocratique, finalement laisse sa place aujourd'hui à d'autres formes politiques qui ont peut-être pour ambition de régénérer un petit peu justement ce processus-là?
C'est vrai que le Parti Socialiste a perdu et en déclin, ça on le sait, mais malgré tout, c'est jusqu'à maintenant, il a essayé de former un gouvernement parce qu'il faut toujours rester à la tête de l'Espagne, comme c'était une tradition jusqu'à maintenant. Mais c'est vrai, il est en déclin et on verra, enfin, les Espagnols vont décider s'ils veulent vraiment garder ce parti héritier des années de la transition ou s'ils veulent carrément tourner et virer à gauche, plus à gauche, en votant Podemos et Gauche Unie. Donc, je pense que le parti socialiste va essayer...
C'est-à-dire qu'un des éléments de la crise de la démocratie, c'est la crise actuelle du Parti socialiste. Mmh. Si le Parti socialiste était au clair sur les questions territoriales et sur ses alliances, les choses iraient beaucoup mieux. Parce que c'est un grand parti de gouvernement qui est totalement désorienté. Et si vous suivez la campagne électorale, on ne comprend absolument pas vers où ils vont. Un jour, ils disent... on fera un gouvernement de gauche, un autre jour, il dit, on ne gouvernera pas avec Podemos. Donc, il y a vraiment une grosse difficulté autour de ce pilier-là. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes au Parti populaire. Hein.
Mais est-ce que ça veut dire aussi qu'il incarne tellement, finalement, un passé important et lourd pour les Espagnols que peut-être aussi il paye un petit peu, justement, ce poids-là aujourd'hui, Alicia Fernández-García?
Je pense que le Parti socialiste a pu négocier avec Podemos. Il avait la clé. Parce qu'entre les deux, il est des partis indépendantistes, il pouvait arriver à former un gouvernement. Mais le poids du passé, d'après moi, est tellement lourd que le Parti socialiste ne veut pas accepter certaines questions ou certaines concessions comme le référendum en Catalogne. Une réalité qui est là et qui est demandée par Podemos.
Alors sur cette question du passé et cet achèvement de la transition démocratique, là je reprends ce que vous avez dit Benoît Pélisse-Randy, j'aimerais avoir votre avis Sophie Babi. Bah, d'abord déjà peut-être sur l'achèvement de la transition démocratique. Est-ce que cette transition démocratique donc a été engagée après la mort de Franco? Est-ce qu'elle est véritablement achevée ou en tout cas est-ce qu'elle est vécue comme telle aujourd'hui par les Espagnols ou bien est-ce que certains ne se rendent pas compte et c'est un petit peu le thème de votre ouvrage et d'un article que vous avez écrit sur le sujet. Est-ce que les Espagnols ne se rendent pas compte que finalement ce mythe dans lequel ils ont été élevés était, comme tous les mythes, pas tout à fait en phase avec la réalité?
Oui, alors déjà je voudrais juste souligner qu'il ne faut pas non plus trop charger le PSOE comme seul facteur de la crise politique actuelle et que bien sûr il y en a beaucoup d'autres, parmi eux la corruption qui a touché tous les bords de la classe politique, parmi eux la justice, parmi les réformes souhaitées, à la réforme du corps de la magistrature et de la justice qui pose beaucoup de problèmes. Et puis, bien sûr, la crise de la monarchie, dont on parle moins en ce moment, mais dont on a beaucoup parlé il y a quelques années. Et qui, pour rebondir sur votre ultime question, qui renvoie en fait à effectivement un autre aspect de la transition à la démocratie qui n'a jamais été véritablement tranché, c'est-à-dire le choix entre monarchie et république, qui est un débat qui n'était pas possible à l'époque de la transition à la démocratie, qui s'est résolu dans une constitution approuvée par référendum où on a prouvé un État monarchique, mais où finalement la question n'a jamais été vraiment posée. Les républicains ont été marginalisés du débat, du processus de démocratisation à ce moment-là. En revanche, est-ce qu'une transition à la démocratie est jamais achevée? Est-ce qu'une démocratie est jamais complète?
Bah, je suis pas sûr qu'on se poserait la question pour la France. Par exemple, je suis pas sûr qu'on se demanderait si nous avons achevé notre transition démocratique. Notre démocratie peut être considérée comme étant en crise, mais je suis pas sûr que le terme de transition serait à ce point accepté, disons en tout cas.
Tout à fait. Alors effectivement, c'est le propre effectivement de la société espagnole et de la classe politique espagnole de se référer sans cesse à cette transition à la démocratie, qui est le moment fondateur de la démocratie espagnole actuelle, et donc d'imputer finalement tous les travers de la démocratie actuelle au vice de la transition. De dire tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est parce que la transition ne l'a pas résolue en son temps. Ce sont des traces du franquisme qui sont toujours là et qu'il faut pour de bon extirper, je dirais, de la société et des institutions espagnoles.
Dans un article que vous avez consacré à ce sujet, vous citez un des acteurs du mouvement Podemos actuel, Alberto San Juan, qui dit ceci: « J'ai grandi avec un récit mythique de mon pays. Depuis tout petit, on me raconte que notre société est une démocratie qui a commencé en 1975 et que ce fut une transition moderne, exportable parce que exportable notamment dans les pays d'Amérique latine, mais c'était une arnaque absolue. »
Oui, alors ça c'est l'avis d'une partie de la population donc qui est extrêmement critique à l'égard de la transition et qu'on retrouve aujourd'hui dans Podemos. Hein. Lui était sur les listes électorales de Podemos, mais qui dépasse un peu aussi le cadre de Podemos. Mais ce qui est intéressant, c'est que effectivement ce mythe donc martelé d'une démocratie exemplaire, réussie, pacifique, etc. On la critique, mais en même temps on s'y réfère aussi de façon positive en permanence. C'est-à-dire que, y compris Pablo Iglesias, donc le leader de Podemos, se réfère à cet esprit de la transition, comme cet esprit du consensus, de la modération et de la capacité de négociation et de dialogue entre les classes politiques, et aussi le sens de la responsabilité historique, c'est-à-dire faire une réforme globale des institutions par sens de la, de la responsabilité historique.
Renoué Sebrian, vous qui avez vécu cette transition démocratique de l'intérieur à travers les fonctions qui étaient les vôtres au journal El País, et vous d'ailleurs qui avez aussi réinterrogé assez vite justement la nature de cette transition démocratique, qu'est-ce que vous pensez de la critique qui peut être formulée justement quelques décennies après sur l'inachèvement peut-être de cette transition, en tout cas sur le fait que ce soit un mythe fondateur, mais qui aurait peut-être aussi contribué à étouffer une partie de la société espagnole?
Non, je crois que ce n'est pas vrai. Je crois que la transition est achevée et bien finie. Et il faut comprendre que la transition, c'était une transition de la dictature à la démocratie, de la dictature à la liberté. Donc là, la situation n'est pas comparable à la situation de maintenant. Maintenant, il y a une crise qui est comparable. La crise du Parti Socialiste est comparable à la crise de la social-démocratie à l'Europe partout. Et la crise financière appartient un peu à toutes les institutions européennes, etc. Donc il y a des aspects de la crise actuelle qui sont pas différents de la crise que on peut regarder à l'Italie, bien sûr à la Grèce, mais aussi à la France et au Portugal. Et donc, les vrais problèmes institutionnels que nous avons, c'est les problèmes territoriaux qui n'a pas été solutionné pendant la transition, et parce que il y avait une pression formidable de l'armée qui a donné un coup d'État. Il faut pas négliger l'histoire. Ils ont donné un coup d'État 5 ans après après la mort de Franco.
Est-ce que ce n'est pas aussi, pardonnez-moi Juan Luis Sebrian, mais parce que la jeune démocratie espagnole n'a peut-être pas voulu, au nom de cette unité nationale, regarder en face ses problèmes territoriaux?
Oui, mais c'est pas un problème. C'est une question de retrouver la réalité dans un statut fédéral pour l'État, qui vraiment est fédéral, mais on ne se reconnaît pas comme tel. No? Le problème, par exemple, cette histoire de la monarchie et la République, c'est clair que le peuple espagnol, c'est un peuple républicain qui supporte et appuie la monarchie parce que il y a une image que je crois que ça explique très bien. Quand Santiago Carrillo, comme secrétaire général du Parti communiste espagnol, il a quitté le drapeau républicain de la Conférence Presse et il a mis le drapeau constitutionnel, le drapeau monarchiste, si on veut dire comme ça. Parce qu'il n'y avait pas une discussion sur ça, la discussion était pas sur la force de gouvernement, monarchie république, mais sur la démocratie, sur la liberté, sur la représentativité. Et le problème, c'est que le mauvais fonctionnement des institutions a écarté les nouvelles générations des systèmes représentatifs politiques. Mais il y a beaucoup d'ignorance, y compris de la part de Pablo Iglesias quand il parle de la transition. Je ne comprends pas comment il que c'est un professeur de droit politique ou ne connaît pas bien la transition ou il veut l'oublier par des soucis ou par des sectes politiques.
Et pourtant, ce n'est pas si vieux.
C'est une transition de la dictature à la démocratie. Et maintenant, la situation n'est pas comparable à tout ça.
Et pourtant, c'est quelque chose qui n'est pas si vieux que ça. Alicia Fernandez Garcia.
Alors, certains disent que l'Espagne appelle une nouvelle transition. Mais je pense qu'il faut savoir, il faut essayer de comprendre pourquoi on dit cela. Il faut revenir au contexte, à la situation socio-économique de l'Espagne d'aujourd'hui. La crise a laissé 27% de la population active au chômage. 50% des gens de moins de 25 ans ne trouvent pas un travail. Cette situation socio-économique désastreuse a débouché sur l'expulsion des 184 familles de leur logement par jour. Et puis, en plus, les cas de corruption politique c'est multiplié. Donc, tout cela contribue à mettre en question un système et démocratique opéré pendant les années de transition démocratique. Cette remise en question du système, cette cette voie ou cette demande d'une nouvelle transition est aussi exigée par les partis politiques en Espagne. Le PSOE, il propose un pacte constitutionnel sans rompre avec la transition. Le Parti populaire, il dit non, il ne faut pas toucher, surtout pas, le texte constitutionnel. En revanche, Podemos et Gauche Unie, eux, ils demandent une réforme du système électoral et de la justice. Lorsque les Espagnols, ou quand les Espagnols se sont mobilisés, qu'est-ce qu'ils demandent, les Espagnols? Ils demandent un nouveau et une réforme du système, une nouvelle transition, c'est-à-dire plus des droits sociaux, plus de démocratie participative et vraiment le respect de l'État-providence. Donc une transition plus poussée, on va dire.
Ben appel Istrandi.
Moi, je pense que la crise économique a joué un rôle absolument majeur parce qu'on a découvert que toutes les élites, qu'elles soient politiques ou économiques, avaient menti. Et l'une des raisons aussi pour lesquelles il y a eu crise de la monarchie, c'est que la monarchie est devenue un peu le symbole de toutes ces élites. Et après, elle a servi de paratonnerre à cette colère, au point qu'il a quand même fallu organiser l'abdication de Juan Carlos. Et que, heureusement, d'une certaine façon, pour la monarchie, que Juan Carlos a abdiqué en 2014 et qu'il n'est pas aujourd'hui aux affaires, et que Philippe VI arrive, joue d'ailleurs très bien, toute la presse est unanime sur la manière dont il respecte à la lettre la Constitution. Donc ça, je crois qu'il est en train de consolider un peu son pouvoir, même si effectivement il peut y avoir débat sur la forme de l'État. Et puis, il y a un autre élément, c'est que la transition démocratique s'est construite sur l'antifranquisme. Ce qui est tout à fait normal et ce qui est, je dirais, mécanique. Mais du coup, il y a eu aussi une survalorisation démocratique de tous les mouvements antifranquistes au nom, justement, de cet antifranquisme. C'est le cas, par exemple, de l'ETA. L'ETA, on a, pendant un certain temps, notamment en France, mis du temps à comprendre la spécificité de ce terrorisme. Alors, le tournant a été pris relativement rapidement. Quant au nationalisme catalan, le nationalisme catalan, il a une tradition démocratique extrêmement forte. Il représente une partie considérable de la société catalane. Mais quand on va au texte fondateur, du nationalisme catalan, Prat de la Riba, etc., c'est un nationalisme très exclusif, relativement raciste. Et ça, on l'oublie. C'est-à-dire qu'il y a plein d'éléments qui sont très, très, très complexes et qui redisent une fois encore aussi à quel point la chape de plomb qu'a représenté le franquisme a bloqué des évolutions, a tordu des phénomènes, a conduit toutes les forces politiques à devoir s'allier entre elles pour effectivement lutter contre le franquisme. Et plein d'ambiguïtés se sont créées qui aujourd'hui progressivement, j'allais dire, à la fois tendent à se diluer, mais en même temps font partie de l'héritage culturel, politique de chacun de ces mouvements.
Alors, je ne suis pas tout à fait un spécialiste de l'interprétation des mouvements du visage, mais il me semble que quand vous avez évoqué la survalorisation des partis antifranquistes...
Non, j'ai dit la survalorisation démocratique de certains mouvements, voilà. Attention. Hein.
De certains mouvements. Oui. Sophie Babi, je crois déceler chez vous quelques petites nuances peut-être sur ce,
oui,
sur ce
non,
point.
Oui, non, je dirais pas que la transition à la démocratie s'est construite sur l'antifranquisme, puisqu'au contraire, ceux qui ont fait la transition, ce sont quand même les héritiers du franquisme. Certes, comme disait Juan Luis Cebrián, les franquistes réformistes, mais ce sont quand même les héritiers du franquisme qui l'ont fait et qui ont donc adopté les réformes, même si c'était en dialoguant avec les partis d'opposition, en particulier le Parti Socialiste. Reste que sur cette histoire d'appel à une nouvelle transition, elle ne date pas non plus, enfin cet appel ne date pas non plus de la crise économique, c'est-à-dire que le premier appel à une seconde transition, ça remonte à 1993 et dans la bouche de José María Aznar, c'est-à-dire dans
Parti
la
populaire.
Bouche du PP, du leader du Parti populaire. Et ensuite, c'est un appel, donc c'était un appel à ce moment-là à réviser la Constitution, l'État territorial, mais dans un sens de réduire finalement les prérogatives octroyées la Catalogne et au Pays Basque en particulier.
Ça veut dire que c'est quoi? C'est davantage une forme d'instrumentalisation de cette transition démocratique pour des buts politiques qu'un véritable, comment dire, une véritable envie d'avoir une nouvelle transition?
Tout à fait. C'est que je pense que, effectivement, le PSOE, comme l'a souligné Benoît Pellistrandi, s'était accaparé en quelque sorte, ou portait en tout cas l'héritage de la transition, puisque le parti qui avait fait la transition s'était effondré. C'était un parti centriste, l'UCD, dirigé par Adolfo Suárez, qui s'est effondré ensuite dans les années 1980. Donc, le seul parti héritier de cette transition, c'était le Parti Socialiste Espagnol et Felipe González. Donc il portait l'héritage de cette transition. Et José María Aznar, il me semble, et le PP ont compris tout l'intérêt qu'il y avait à s'approprier ensuite cet héritage de la transition. Donc tout en la critiquant, en réclamant une seconde réforme, notamment territoriale, mais pas dans le sens des nationalistes basques et des Catalans, bien au contraire. Et c'est ensuite, je dirais, les nationalistes qui, à leur tour, ont revendiqué une seconde transition. C'est-à-dire qu'en Catalogne, on réclame une seconde transition, mais pour plus de, éventuellement de prérogatives, voire l'indépendance de la Catalogne.
Ce que dit Sophie Babi est d'autant plus important qu'il ne faut pas oublier que José María Aznar n'a pas voté la Constitution en 1978. Il fait partie de ce tout petit groupe, puisque la Constitution est approuvée à 88%. Donc il fait partie de ces irréductibles qui ont voté non, et qui étaient vraiment, pour voter non, c'est qu'ils étaient vraiment franquistes, ou crypto-franquistes, ou... Donc Aznar avait une virginité démocratique à se refaire, non qu'il ait été antidémocrate, mais il n'avait pas participé de ce premier consensus. Et donc, cet appel à la seconde transition est vraiment une instrumentalisation. En plus, il doit manger son chapeau après, puisqu'en 96, il n'a pas de majorité absolue. Il fait donc un pacte avec les nationalistes catalans de Convergencia y Unió de Jordi Pujol, avec le Parti Nationaliste Basque. Et ce pacte qui avait déjà été fait en 1993, quand le Parti Socialiste n'avait pas de majorité, a conduit à quoi? À un transfert de l'impôt sur le revenu vers la Catalogne. On était à 15% en 93. Aujourd'hui, 50% de l'impôt sur le revenu payé par les citoyens espagnols en Catalogne reste en Catalogne. Et donc, et le PSOE et le Parti Populaire, ce que rappelait Sophie Babi au début de l'émission, ont gouverné, non pas avec les nationalistes, mais avec leur soutien parlementaire, et que les partis nationalistes, ils sont la variable absolument essentielle pour construire des majorités. Et s'il n'y a pas eu de majorité, là, entre décembre et aujourd'hui, c'est parce que aucun des deux grands partis n'a voulu ou n'a pu accepter les voix de ces indépendantistes. Moi, ça me fait penser un petit peu à la situation de la 4e République, où vous aviez 150 députés communistes, et quoi qu'il arrive, il ne fallait pas être investi avec les voix des communistes. Ce qui gèle le jeu parlementaire.
Est-ce que vous diriez les uns et les autres, pour revenir à cette idée d'une instrumentalisation de la transition démocratique, qui était donc cet appel à la seconde dans les années 90, mais qu'aujourd'hui, on est encore finalement dans cette même posture de la part des uns et des autres, Juan Luis Cebrián?
Non, d'abord, une contre-révolution n'est pas une révolution, c'est une contre-révolution. Donc la seconde transition de M. Aznar n'était pas une transition, c'était une contre-transition, comme on a dit, parce qu'il voulait réduire les pouvoirs des États autonomes, etc. Mais une transition signifie une rupture. Et je ne crois pas qu'on va avoir une rupture, ça serait désastreux à mon avis, en période constituante ou quelque chose comme ça. Mais il faut réformer la Constitution. Si ça, on appelle une transition, ok. Mais je ne crois pas que chaque fois qu'on réforme une Constitution, on doit parler d'une transition. Il faut adapter la Constitution à la nouvelle génération, à la nouvelle situation. Il faut tenir compte de l'impact de la crise financière et de la nouvelle inégalité qui existe, pas seulement à l'Espagne. J'insiste, il y a une crise de l'État-nation et il y a une crise de la démocratie représentative partout. Et les nouvelles médias, les réseaux sociaux, etc., jouent un rôle très important aussi, même dans la construction des nouvelles partis politiques.
Juan Luis Cebrián, cette rupture à laquelle vous ne croyez pas, est-ce qu'elle ne risque pas malgré tout d'arriver, notamment par, s'il y a un référendum d'autodétermination en Catalogne, et par la déconnexion démocratique, hein, puisque je crois que c'est le terme qui est utilisé aujourd'hui par certains Catalans de l'Espagne.
Oui, on les a écouté dire, mais on ne les fait pas. Et on ne les fait pas parce que, d'abord, on oublie beaucoup de fois, je suis un peu étonné dans les milieux politiques, parce qu'il y a beaucoup de professeurs, mais pas beaucoup de leaders, que la politique, c'est une question de pouvoir. Et la Catalogne n'a pas le pouvoir de s'écarter de l'Espagne unilatéralement. Et il n'y aura pas un gouvernement à Madrid, dans l'avenir qu'on peut imaginer, qui accepterait de négocier l'indépendance de la Catalogne.
Bon, moi, j'ai lu quand même qu'aujourd'hui, en Catalogne, en tout cas, le nouveau gouvernement, issu des élections, je crois que c'était en septembre dernier, est en train alors, de préparer, si ce n'est en douce, mais enfin, en tout cas de manière un petit peu discrète, la possibilité de pouvoir gouverner à ce qui serait un État catalan, Alicia Fernández García.
Je pense que depuis quelques années, les Espagnols se sont habitués à un blocage politique entre la Catalogne, enfin entre Barcelone et Madrid. À Barcelone, on dit que de toute façon, tout est la faute de Madrid. À Madrid, on dit que les Catalans ne sont plus solidaires, ils ne veulent plus aider les Espagnols. Je pense que l'un des défis majeurs pour l'Espagne d'aujourd'hui, c'est sans doute l'indépendantisme, le séparatisme. Toutefois, les élections du 27 septembre en Catalogne ont montré qu'il n'y a pas dans cette région des majorités indépendantistes. Et à mon avis, derrière...
Pas de majorité, mais c'est quand même eux qui gouvernent.
Oui, mais c'est une coalition. Des gauches, d'extrême gauche, et puis de droite. C'est une coalition. Et des gauches anticapitalistes. Donc il n'y a pas vraiment une majorité. Et à mon avis, derrière cet problème indépendantiste, je pense qu'il se cache un problème moral. Une question morale. Qui est vraiment, ou qui est le peuple souverain? Donc, pour ceux qui pensent que la souveraineté réside dans le peuple, bien évidemment, et les Catalans n'ont pas le droit, ils ne peuvent pas devenir indépendants. En revanche, pour ceux qui pensent que, pour ceux qui croient au droit des peuples à décider, c'est normal que les Catalans puissent décider de leur avenir. Je vais finir, et je pense qu'il n'y a pas de réponse morale, mais il y a toutefois une réponse juridique, c'est la Constitution qui dit qu'il n'est pas possible de célébrer un référendum pour faire cession de l'État espagnol.
Ben, je m'appelle Estrandi. Pardonnez-moi, Renoué, c'est Brian.
Oui, mais non, si je peux dire, d'abord, c'est parce que la souveraineté, selon la Constitution, ne réside pas dans les États autonomes, mais réside dans le peuple espagnol. Donc, c'est le même pour la France, pour l'Allemagne, pour beaucoup de pays. Et ça serait le même pour la Corse, pour la Bretagne, si on voudrait. Non? Donc, et puis, je n'ai jamais écouté à Madrid dire que les Catalans ne sont pas solidaires. Là, c'est une accusation, une autre fois, faite par des autres. Madrid jamais a dit, Madrid, les centralistes, etc., a dit rien contre la solidarité des Catalans qui est bien reconnue par tous. Donc, ça, c'est pas vrai. Il n'y a pas une lutte ou une polémique entre Madrid, les centralistes et la Catalogne. D'abord, il y a 17 autonomies. Nous avons deux archipiélagues. Nous avons quatre langues différentes dans les pays. Ce n'est pas seulement la question catalane. Il faut comprendre l'Espagne pluraliste avec une pluralité de peuples qui est comme ça depuis cinq siècles. Donc le problème, c'est que la Constitution n'arrive pas à structurer ça dans un marque fédéral. Et c'est pour ça que les institutions ne marchent pas, ne fonctionnent pas.
Allez, un tout dernier mot de Benoît Pellistrandi et de Sophie Babi, parce que discussion passionnante, mais on est presque au terme de l'émission. Benoît Pellistrandi.
La nation, c'est ce qui fait la citoyenneté. Et c'est un processus juridique et politique. Le peuple, ça peut être une invention culturelle ou raciale. Et moi, je préfère rester sur des concepts politiques et juridiques pour parler effectivement de nation espagnole au pluriel, une nation de nations, mais l'idée qu'il y a un peuple catalan, un peuple canarien, un peuple baléare, il me semble que c'est la voie ouverte à une balkanisation qui peut être dangereuse.
Voilà, une Espagne avait une nation avec des identités multiples, par exemple, ça pourrait être ça la conclusion, Sophie Babi, enfin
oui,
la conclusion.
Oui, tout à fait. En tout cas, c'est certain que l'Espagne doit se confronter de plein fouet à cette reconfiguration de l'État territorial, parce que là, on parle de la Catalogne, mais le problème majeur qui a été pendant des années, c'était le Pays Basque. Et le problème basque va ressurgir de toute façon à un moment ou à un autre. Donc, je pense que l'Espagne n'est pas seulement confrontée au processus d'indépendance de la Catalogne, mais aussi une autre grande région problématique et qu'elle doit résoudre cette question d'une façon ou d'une autre.
Voilà, et on verra si les électeurs espagnols aident à résoudre ces questions. Ce sera donc les prochaines élections législatives fin juin, dimanche 26 juin. Sinon, l'autre rendez-vous, c'est donc le foot avec la finale de la Ligue des Champions. Mais il y a peut-être moins d'enjeux politiques derrière, encore que. Merci en tout cas à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion. Sophie Babi, Juan Luis
Cebrian, en direct depuis Madrid, Alicia Fernandez-Garcia et Benoît Pellistrandi. Discussion que vous pouvez poursuivre en nous écrivant sur notre site franceculture.fr, la page du Grain à Moudre. Un grand merci à toute l'équipe du Grain, Cyril Baer, Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Mathilde Barbier, Hugo Florent. Émission réalisée par Ghislaine David, avec à la prise de son Jean-Guilain Meige. Demain, convergence des droits sociaux vers le bas ou vers le haut, ce sera la question.